tous et bienvenue à ce séminaire d'épistémologie de la musicologie numérique, les approches mixtes quantitatives qualitatives. Alors, il s'agit d'une séance qui est très particulière et attrayante pour nous, non seulement en raison de sa problématique en tant que telle, sur laquelle on va revenir durant tout l'après-midi, mais aussi en raison des intervenants qui nous font le plaisir de se joindre à nous cet après-midi. Jean-Jacques Latier, François Rastier et Nicolas Béus. Nicolas qui est l'un des coordonnateurs du séminaire avec Thomas Bettini, Cécile Verdeau et moi-même. C'est aussi un réel plaisir d'accueillir tant de personnes lors de ce séminaire. L'un des enjeux effectivement, et on l'a conçu comme ça dès le départ, de promouvoir un dialogue interdisciplinaire entre musicologie et sémiotique. Et l'un des aspects centraux est effectivement qu'on puisse tous s'investir dans cette discussion. La configuration est vraiment idéale aujourd'hui, je pense, grâce à nos intervenants aussi. L'un des enjeux effectivement est que nous puissions mener un dialogue à la fois entre les intervenants, mais aussi avec les autres participants du séminaire. La problématique qui nous intéresse se situe donc au niveau du musicologie, peut-être différer de numérique, qui s'inscrit assez volontiers dans le projet d'une musicologie générale telle qu'elle est défendue par Jean-Jacques. Musicologie qui essaie d'articuler, on est dans le cadre maintenant du musicologie numérique, qui essaie d'articuler les approches quantitatives et qualitatives. À partir de cette perspective, nous souhaitons nous interroger sur l'appréhension du sens et de la signification en musique. Plus précisément, on souhaite mener un débat sur le statut de l'immanence et de la contextualisation dans les approches musicologiques. Alors, les questions a priori qu'on voudrait se poser durant cet après-midi sont a priori au moins assez simples. À un premier niveau, est-il possible d'appréhender une œuvre musicale de manière strictement immanente? C'est une question à laquelle va répondre Nicolas de manière strictement rhétorique, connaissant la dont il abordera les choses. Si oui, si cette possibilité d'immanence est possible, en quoi consiste l'approche immanente? C'est surtout à ça qu'il faudra répondre. En quoi consiste cette approche? Quels sont les présupposés méthodologiques de la démarche immanente? Quelles sont les conditions? Quels sont ses rapports à l'interprétation? Quels sont les résultats apportés par cette analyse? Quels sont finalement les résultats escomptés par une démarche qui se réclamerait de l'immanence? À un second niveau, complémentaire, il s'agit de soulever les questions suivantes qui ont trait finalement à la prise en compte des contextes. On a thématisé la journée de manière volontairement un peu provocatrice en mettant en regard analyse immanente et en l'opposant à la question de la contextualisation. Toute la question est de savoir comment tenir compte finalement de ces contextes dans le cadre d'une musicologie générale. Donc, quelles sont les possibilités d'articulation de l'œuvre avec ces contextes? Quelles sont les démarches méthodologiques possibles en matière d'une musicologie numérique? Encore une fois, quelles sont les possibilités du coup qui s'ouvrent à nous dans le cadre d'une musicologie qui se réclame de démarches numériques, quantitatives et qualitatives? Quelle est la nature précise des différents contextes qui sont susceptibles d'être pris en compte? Là encore, on parle du contexte de manière très très générale. Il serait bien effectivement durant cette séance de préciser effectivement quelles sont les natures de ces différents contextes. Comment les articuler les uns par rapport aux autres, et c'est ce qui est en lien finalement avec la dernière question qui me paraît importante, comment articuler ces différents contextes entre eux et avec l'organisation interne des œuvres. Alors, ces deux champs de questions finalement ouvrent la porte à des problématiques connexes qui sont tout aussi importantes et qui feront l'objet de nos discussions aujourd'hui. La première question est finalement celle de la question du fondement ontologique ou nominaliste des significations identifiées. J'entends par là la question suivante. Faut-il considérer finalement que les significations sont déposées en quelque sorte dans les objets, les œuvres musicales, et que l'analyse musicale consiste à les identifier, à les expliciter? Il s'agirait dans ce cas-là finalement d'une vision essentiellement statique de ce qu'est la signification, de ce qu'est le sens, à l'opposé D'autres ont considéré que les articulations signifiantes sont résultat de grilles de lecture invoquées par l'analyste et d'un processus dynamique, essentiellement dynamique, de production de sens et une simiosis qui s'est vue comme un acte essentiellement dynamique, avec toutes les questions que cela soulève en termes d'interprétation. Alors, la réalité, on s'en doute, est effectivement probablement pas si tranchée, mais c'est effectivement sur cette articulation, à cette articulation qu'il faut réfléchir dans le cadre des réflexions, des échanges qui vont nous accompagner. Cette question finalement de la nature ontologique ou nominaliste reflète indirectement aussi le statut finalement qu'on a pu concéder au structuralisme en tant que tel. C'est l'une des questions finalement qu'Eco a thématisée dès les années 70 dans la structure absente. Est-ce que finalement la démarche structuraliste consiste nécessairement à postuler des structures ontologiquement fondées, ou au contraire, est-ce qu'on peut partir finalement de l'idée d'un structuralisme des sens opératoires, d'une hypothèse méthodologique finalement, qui résulte finalement dans une grille de lecture aussi, à partir duquel, d'un point de vue méthodologique, il est possible de faire des déductions, encore une fois, qui relèvent d'une interprétation d'une démarche, encore une fois, qui ose finalement à cette idée d'une approche structurale. L'idée de structure ontologiquement fondée dans les objets. Alors c'est une question effectivement qui acquiert une certaine actualité aussi en raison des développements récents de l'informatique, enfin récents, plus si récents que ça, mais finalement toute la question des ontologies informatiques dialogue avec cette question finalement de l'essence de la structure. De créer des ontologies informatiques, finalement ça revient à adopter une compréhension essentiellement statique de ce qui est, de ce que sont les signes, quelles sont les voies, quelles sont les autres voies qui se dessinent à cela, compte tenu de l'importance qu'on va concéder à l'interprétation en tant que telle, dans le cadre des échanges qui vont suivre dans le cadre de ces interventions. La deuxième question qui se pose en lien avec les deux champs évoqués à l'instant, c'est la production du coup de l'interprétation et la production de sens dans le cadre de démarches numériques. Si l'on retient finalement le modèle de Jens Leff, le signe est constitué de deux plans, le plan d'expression, qui est en grande partie, mais pas toujours, visible dans l'objet, et le plan du contenu, qui n'est pas saisissable à partir des traces matérielles en tant que telles. Ça suppose effectivement, ou ça nous place devant un problème, qui est le suivant: il est impossible, à partir d'approches résolument quantitatives, d'inférer des significations à partir des objets qui constitueraient l'objet de l'enquête. Ça, tout ça soulève du coup la question de l'interprétation en cache de démarches numériques. Comment concilier d'une part les approches informatiques avec une production de signification et de sens qui intègre la réflexion critique, la réflexion interprétative des analyses individuelles et collectives dans le cadre de démarches participatives, dans une démarche, dans des paradigmes qui sont uniformes. Ça a des applications épistémologiques relativement générales. On va le voir, je pense que Nicolas en parlera, Jean-Jacques en parlera dans tous les cas, de manière implicite au moins. Ça a des applications très concrètes pour nos pratiques analytiques et pour nos pratiques musicologiques au quotidien. Et on a besoin du coup du point de vue de ces noticiens qui nous font le plaisir de jouer à nous aujourd'hui pour discuter de ces démarches aussi à un niveau plus général. Un autre point qui me paraît essentiel et dont nous pourrions débattre aujourd'hui est la question de l'interprétation et du statut de l'herméneutique dans la production de sens. Alors, je ne vais pas anticiper sur les conclusions que nous ferons au cours de ces séances, mais je pense qu'on pourra convenir et à lire finalement les argumentaires, c'est assez transparent, que la production de sens est toujours liée finalement à une procédure interprétative. Du coup, se pose effectivement la question du statut de l'herméneutique en tant que tel. Jean-Jacques a une position particulière, non pas particulière, mais je pense qu'elle reflète assez bien l'attitude qu'on adopte en musicologie par rapport à l'herméneutique, de ce que peut être l'herméneutique, c'est-à-dire quelque chose qui est essentiellement axé sur une mise en regard avec des significations extérieures. C'est finalement Ian Banks qui développe finalement ce lien entre herméneutique et mise en rapport de significations extérieures. Ma question serait la suivante: est-ce qu'on peut concevoir une herméneutique musicale qui est essentiellement axée sur des significations intrinsèques? Je pense que Schenker n'est pas nécessairement opposé à ce point de vue de l'herméneutique essentiellement intrinsèque qui reposerait effectivement sur une réflexion axée sur la mise en évidence, sur le dialogue avec des structures intrinsèques à l'œuvre musicale. L'un des enjeux là-dedans est effectivement de savoir si le fait d'associer l'herméneutique à la simple réflexion sur les structures externes ne nous prive pas en définitive de toute une réflexion philosophique qui a été menée notamment en Allemagne et qui apporte des outils aussi qui pourraient être utilisés pour l'analyse immanente. Encore une fois, il ne s'agit pas maintenant de bousculer entièrement les acceptions qui ont été faites en musicologie en ce qui concerne l'herméneutique, mais au moins de réfléchir sur ce que peut nous apporter l'herméneutique dans le cadre d'une démarche axée sur l'immanence, au moins sur l'interrogation à partir d'une réflexion qui se veut axée sur les œuvres en tant que telles. La dernière question qui est liée finalement à ce champ de réflexion est celle de l'autonomie de l'œuvre musicale. Alors, le statut de l'analyse interne est finalement lié étroitement à la question de l'autonomie de l'œuvre et indirectement aussi à la question de l'autonomie de la démarche analytique en tant que telle. Alors, c'est une question, la question sur l'autonomie, qui a une tradition très très longue en musicologie, et on ne sera pas obligé de refaire le débat en fait, qui a été fait depuis le 19e siècle sur cette question de l'autonomie. Ce qui me paraît intéressant, par contre, ça serait de se poser la question suivante. S'il semble justifié d'un point de vue méthodologique de considérer l'œuvre en tant que telle comme une structure qui est autonome et qui mérite d'être abordée à partir de cette perspective, quand un système relativement clos en soi, il me paraît tout aussi important de considérer finalement qu'aucun système n'est dissocié en tant que tel, que chaque unité finalement peut rentrer en dialogue avec des systèmes d'ordre supérieur aussi. La question n'est pas tant de savoir si, du coup, l'œuvre musicale, en tant que quelque chose d'autonome, considéré sur le point de vue musicologique, peut être abordée à partir d'elle-même, mais comment mettre en rapport, finalement, dans une réflexion qui est située à un niveau de la musicologie générale, ce degré d'autonomie, ce système en tant que tel, avec d'autres systèmes. Finalement, la réflexion sémiotique montre finalement que la démarche sémiotique repose sur un système qui interagit avec d'autres systèmes. C'est cette interaction finalement de différents degrés d'autonomie qui paraît intéressante aussi, qui mériterait d'être thématisée. Voici donc, je vais m'arrêter là, en grande partie des thématiques qu'on pourra aborder aujourd'hui. Il y en aura d'autres aussi qui émergeront au gré des interventions et au gré des réactions à ces interventions. Quelques mots rapides sur l'organisation de ces 4 heures au maximum que nous allons passer ensemble. On a prévu 3 interventions sur une durée, encore une fois, de 4 heures, ce qui suppose qu'on puisse considérer, qu'on puisse consacrer plus ou moins 3 quarts d'heure, 1 heure à un temps d'intervention avec une présentation et un dialogue, ou le cas échéant avec un dialogue qui pourrait s'étaler effectivement sur 1 heure. On a prévu du coup d'écouter les interventions de Nicolas puis de Jean-Jacques en première partie de séance, de faire une pause qui sera probablement de l'ordre d'une demi-heure, trois quarts d'heure, et de consacrer le restant de cette séance au dialogue, à la discussion que nous mènerons avec François Rasti. Un dernier mot sur la question des échanges et du dialogue au cours de cette séance. Comme je le disais au début, l'un des enjeux de cette séance est effectivement de pouvoir faire dialoguer deux disciplines qui se caractérisent notamment par un degré de technicité qui est assez spécifique. Il faudra absolument veiller finalement à ce que nos discours soient compréhensibles au-delà de notre propre discipline et veiller aussi finalement à ce que nous arrêtions nos interlocuteurs des questions se posent, si des questions de compréhension se posent. Finalement, on a probablement rarement buté autant dans la préparation d'une séance que cette fois-ci. En 15 ans avec Nicolas, on n'a jamais buté sur tant de problèmes de compréhension et peut-être aussi sur des problèmes de point de vue que lors de la préparation de cette séance, avec Cécile, avec Thomas. Et on a pu s'approcher probablement, on a pu converger en ce qui concerne nos points de vue, mais on ne converge pas complètement. Mais finalement, heureusement, ce qui montrerait sans ça que les questions qu'on se posait en entrée de jeu ne sont plus d'actualité, ne nous intéressent pas. Ce qui n'est pas le cas. Schleiermacher précise finalement que, ou postule que la compréhension commence par des présupposés, par une incompréhension. Il serait dommage de s'en arrêter là lors de cette séance. Tout ça pour dire, encore une fois, il est absolument indispensable que nous posions des questions, que l'on essaie finalement, autant que nous soyons, de nous impliquer dans la discussion pour qu'un vrai échange puisse s'instaurer et que les points de vue puissent être échangés et que nous puissions progresser dans les compréhensions de ces questions qui nous tiennent à cœur. Donc finalement, Schleiermacher est un bon prélude à ce que Nicolas va développer maintenant, la question de l'immanence. L'immanence est-elle possible? Encore une fois, c'est une question rhétorique pour Nicolas. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir à quelles conditions cette immanence est possible de votre point de vue.
La question n'est pas si l'immanence est possible. C'est bien si l'analyse immanente est possible. C'est pas tout à fait la même chose. Alors, il faut que je fasse redémarrer ce machin.